que j'ai appris et en particulier en jouant au go, mais aussi dans mon approche du coaching, c'est qu'au fond, en regardant de manière très curieuse le contexte dans lequel vivent les gens, alors on est amené à relativiser beaucoup toutes ces questions de bon ou de mauvais comportement.
Vraiment, il y a beaucoup de choses que tu dis qui sont à contre-courant de manières de penser ou de conseiller actuel. Et c'est ça qui est super intéressant. Et c'est pour ça que je voulais vraiment te réinviter parce que j'aime bien justement entendre des choses à contre-courant et m'ouvrir à de nouvelles choses. Bonjour à tous! Vous écoutez le podcast Les Intelligences Collectives où je vais à la rencontre de celles et ceux qui transforment leur manière de vivre et travailler ensemble. Les intelligences collectives, ce sont des outils et des réflexions à destination de tous ceux qui veulent déployer collectivement un projet. Dans chaque épisode, les invités partagent leurs expériences sur le sujet du faire ensemble pour vous aider à soutenir le développement de vos activités. Je suis Sophie Franz, consultante en stratégie et en conduite du changement. J'utilise chaque jour les méthodes d'intelligence collective pour épauler les organisations dans leur croissance grâce au pouvoir du collectif. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute, cela m'aide beaucoup. Et maintenant, place à la conversation du jour, belle écoute à vous! Bonjour à tous! Vous vous souvenez de l'épisode 39 sur le jeu de Go? Un jeu de plateau millénaire, souvent comparé aux échecs, et qui, comme les échecs, nous invite par le jeu à apprendre et faire des parallèles avec nos challenges quotidiens. Cécile Guinebeau, coach de dirigeants et d'équipe, était venue nous initier à cela. Vous aviez adoré comprendre l'importance des stratégies collectives dans ce jeu, l'utilisation de cet outil en coaching et séminaire d'entreprise, et vous aviez été, comme moi, titillée par les proverbes de Go, réducteur de complexité, comme nous le disait Cécile. Si vous avez raté tout cela, je vous invite à aller écouter l'épisode 39. Et pour ceux qui l'ont déjà écouté, je vous invite à écouter la suite puisque Cécile m'a fait l'honneur de revenir sur le podcast pour nous parler du jeu de Go et avec un focus sur son expertise sur l'approche systémique. Et je suis super contente. Donc bonjour à toi, Cécile.
Bonjour Sophie et merci de me faire l'honneur de me recevoir à nouveau. J'ai eu des retours absolument mais enchantés du premier épisode. Des gens qui ont vraiment aimé, qui ont écouté, qui ont réécouté, des gens qui m'ont contacté pour en savoir plus.
Excellent.
Et qui m'ont dit aussi avoir découvert ton podcast et en avoir écouté d'autres épisodes.
Ah là, ça c'est super. Win-win, gagnant-gagnant.
Exactement.
Bah écoute, moi aussi j'ai des super retours et j'avais vraiment envie de te réinviter sur ces proverbes de Go parce que c'est quelque chose qui reste dans ma tête, tu sais, et du coup je trouvais ça intéressant de faire ce focus. En fin de podcast, on a parlé de ça ensemble, de l'épisode 39, ce que tu disais que c'est des proverbes que vous utilisez dans le jeu, alors c'est un peu des apprentissages, c'est cette idée de réducteur de complexité que je trouve vraiment intéressant. Et pour moi, tu es une des expertes de l'approche systémique. Comme je disais en premier épisode, je lis beaucoup ton blog, qui est vraiment chouette, que j'invite. C'est Bridge the Gap, avec des articles super intéressants, super fournis, notamment sur cette concept, idée d'approche systémique. Est-ce qu'on peut faire ce focus sur ce sujet avec toi aujourd'hui ?
Mais avec plaisir. Génial. Alors, experte de l'approche systémique, c'est un peu gros pour moi, mais je te remercie, voilà, de me peindre de manière aussi flatteuse. En gros, si tu veux, l'approche systémique, je l'ai découverte beaucoup, beaucoup plus tard que le Go. Mais en fait, si ça a connecté aussi vite, c'est que à la fois l'approche systémique et le Go prennent tous les deux leurs racines dans la pensée chinoise. Et la pensée chinoise, c'est, au contraire de la pensée occidentale, c'est une pensée qui est circulaire. C'est une pensée qui s'intéresse à ce qui fait système et aux interactions qui font qu'une famille, une entreprise, une société, un écosystème, l'univers vit. Et cette approche-là s'intéresse plus aux interactions qu'aux comportements individuels. Et en fait, c'est vrai au Go, où, comment dire, les pions individuels n'ont pas de valeur propre, ils n'ont de valeur qu'en interaction par rapport à ce qui se passe sur le reste du plateau.
Versus les échecs, tu nous expliquais, c'est ça, par exemple ?
Voilà, c'est ça, okay. Où, tu sais, les échecs où finalement, il y a une hiérarchie et chaque pièce individuelle a un rôle, un pouvoir proportionnel à sa fonction. Et puis, et donc, si tu veux, cette approche circulaire, relationnelle, contextuelle, fait aussi qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement dans l'absolu. Et quand je dis pas de bon ou de mauvais comportement dans l'absolu, un comportement dans une approche circulaire, systémique comme ça, ne prend son sens et sa valeur que par rapport au contexte dans lequel il s'exerce, il s'exprime. Tu veux, un comportement, il est bon s'il te permet d'atteindre ton but et sans provoquer de conséquences que tu vas regretter par la suite. Et donc, ça veut dire regarder beaucoup plus large que juste le comportement que tu as à un moment donné.
Et ça, c'est l'approche systémique versus l'approche linéaire que tu disais plus occidentale.
Voilà, et l'approche linéaire qui est un petit peu action-réaction, cause-effet, puis on s'arrête là. Et typiquement, si tu veux, ça amène aussi, c'est cette pensée-là, de part à l'individualisme, je fais ce qui est, ce qui est dans mon intérêt à moi, et puis, je regarde moins les conséquences autour de moi. Et typiquement, tous les débats autour de la lutte contre le réchauffement climatique, etc., sont des débats qui finalement confrontent une pensée linéaire et un petit peu d'une certaine manière court-termiste, et puis une approche beaucoup plus circulaire, beaucoup plus globale, et qui montre que les actions de tel jour, de telle époque, ont des répercussions beaucoup plus tard et et beaucoup plus loin.
Ok. Et donc là, on rentre dans cette notion de système, aussi de complexité, c'est ça, de cette idée de se dire, c'est pas action-réaction, c'est quelque chose de plus global, de plus circulaire, avec des interactions où tout interagit. Est-ce que justement, on a peur de ça, en fait ? Alors, je dis peut-être nous, les Occidentaux, qui sommes habitués aux action-réaction, cette complexité, comment tu l'as... Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est une peur qu'on a ?
Oui, c'est une peur qu'on a. Parce qu'on en a peur, je pense qu'on a aussi beaucoup tendance à vouloir réduire cette complexité à des recettes ou des bonnes pratiques toutes faites qui pourraient s'appliquer à tout le monde en toutes circonstances. Ce que j'observe beaucoup, c'est que, par exemple, le développement personnel ou le leadership, qui sont finalement les sujets que je regarde de plus près, en fait, parce qu'on a cette peur de la complexité, alors, il y a une tendance très humaine et très compréhensible à s'accrocher à des bonnes pratiques ou à des clés de succès qui seraient les mêmes clés de succès pour tout le monde et en toutes circonstances. Et au fond, si tu veux, moi, ce que j'ai appris, et en particulier en jouant au go, mais aussi dans mon approche du coaching, c'est qu'au fond, en regardant de manière très curieuse le contexte dans lequel vivent les gens, se posent des problèmes et des difficultés, alors on est amené à relativiser beaucoup toutes ces questions de bon ou de mauvais comportement. Et qu'au fond, un comportement n'est jamais que une pièce dans quelque chose de plus large.
Excellent. Ça me parle beaucoup aussi. Tu vois, moi, je suis plus marketing stratégie. Et c'est vrai que j'ai vraiment, je pense que j'ai jamais beaucoup communiqué sur les trois bonnes façons de faire n'importe quoi, parce que je suis 100% OK avec toi. Ça dépend du contexte. Sur mon secteur, on a cette habitude aussi, mais c'est pas parce que je te donne ce conseil à toi qui fonctionne, qui va fonctionner aussi à une autre personne. Et du coup, c'est vraiment intéressant de comprendre ça, je trouve. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand tu dis regarder de manière très curieuse, parce que justement, on peut avoir des outils, mais qui ne sont pas forcément les bons à ce moment-là. Et avoir cette ouverture, elle permet de faire évoluer ces outils au bon moment, je trouve.
Ouais.
Donc, merci pour ce partage qui me parle aussi dans ma pratique quotidienne. Du coup, je me pose quand même la question, est-ce qu'on n'est pas un peu contradictoire, tu vois? Là, on dit, nous deux, ensemble, hein, que attention à pas donner des bonnes pratiques, attention à pas réduire la complexité parce que ça dépend du contexte. Et moi, en introduction, je dis, on va parler des proverbes de Go qui vont nous aider à réduire la complexité. Comment est-ce que tu vas nous aider sur ce point?
Alors, un réducteur de complexité, c'est quelque chose qui te donne une direction dans laquelle regarder dans un contexte particulier.
Génial.
Et cette direction dans laquelle regarder n'est pas une solution, c'est une invitation à regarder d'abord à un endroit pour voir si tu peux y trouver quelque chose d'intéressant. Et si tu n'y trouves pas quelque chose d'intéressant, alors va regarder ailleurs. Ah, mais en fait, si tu veux, ça te permet d'orienter ton effort de réflexion. Et, parce que si tu veux, le jeu de Go, c'est 10 puissance 170 possibilités. Mais un humain ne peut pas faire ça. Alors, puisqu'un humain ne peut pas faire ça, il a besoin, si tu veux, de méthodes pour orienter sa réflexion. Mais c'est juste un guide de réflexion, c'est pas une solution toute faite à appliquer. Et typiquement, si tu veux, tu m'as demandé de lister des proverbes, etc. Et en fait, je me rends compte que cette façon justement de dire il n'y a de bon ou de mauvais comportement que par rapport à un contexte et aussi bien entendu à un objectif. Ça permet de regarder l'ambition et ses limites de manière très relative. Ça permet de regarder la gestion des priorités de manière tout à fait différente. Ça permet de regarder la persévérance avec un peu de circonspection. Ça permet de regarder la prise de risque et la sortie de sa zone de confort avec aussi un petit peu de recul. Et enfin, ça permet aussi de regarder la procrastination avec peut-être un peu plus de tendresse ou, allez, d'intérêt. Donc, tu vois, c'est ces sujets-là qui sont vraiment des marronniers du leadership, du développement personnel. Et bien, quand tu prends une approche à la fois interactionnelle et contextuelle, tu te rends compte que tous ces sujets-là peuvent être, regardés avec beaucoup plus de nuances que il faut persévérer parce qu'au bout de la persévérance, il y a le succès, ou il ne faut jamais procrastiner parce que la procrastination, c'est la porte ouverte à l'échec, etc.
Ça fait écho à beaucoup de choses aussi dans ma pratique, donc je trouve ça super cool. J'adore l'idée de ça permettre d'orienter ta réflexion versus des canevas tout faits, des bonnes pratiques, il faut faire ça. C'est vraiment des outils qui permettent d'orienter la réflexion, c'est vraiment chouette. Je comprends bien l'idée de ça dépend du contexte et de l'approche interrelationnelle, c'est vraiment intéressant. Dans ce que tu viens de citer, est-ce que tu pourrais nous titiller, nous aider à réfléchir grâce peut-être à un proverbe de Go? Tu citais quatre pistes de réflexion justement en ayant cette ouverture d'esprit sur la prise de risque et la zone de confort. Est-ce que tu aurais un proverbe à nous donner pour nous orienter notre effort de réflexion? J'adore.
Merci. Alors oui, ça c'est vraiment un truc que j'adore parce qu'au fond, si tu veux, derrière la notion de prise de risque, c'est savoir gagner et savoir perdre. Quand tu lis les réseaux sociaux, les bouquins de développement personnel, les bouquins de leadership, etc., il y a une survalorisation de la prise de risque, une survalorisation de la sortie de la zone de confort. La zone de confort, c'est vraiment c'est le diable aujourd'hui. On ne peut pas apprendre en étant dans sa zone de confort, on ne peut pas progresser en étant dans sa zone de confort, etc., etc. Je laisse chacune et chacun rappeler ses souvenirs ou en tout cas ses lectures récentes sur le sujet, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais en fait, quand tu joues au Go, c'est savoir gagner, savoir perdre. Quand tu joues une partie, c'est une partie parmi 1000 autres que tu pourras éventuellement jouer avec ce partenaire ou cette partenaire. La partie se déroule. Chaque joueur, chaque joueuse qu'on évalue la situation. Est-ce que je suis en avance? Est-ce que je suis en retard? Parce que je te rappelle, hein, c'est un jeu de partage du monde. Et c'est celui ou celle qui a la plus grosse part du gâteau à la fin qui gagne. Et il suffit d'un point d'écart pour gagner. Et tu ne gagnes pas mieux selon qu'il y a un point d'écart ou 50 points d'écart. D'accord ? Ça, c'est très, très important. Ça dit que quand tu penses que tu es en avance et que l'autre est en retard, donc il est probable que l'autre va perdre, c'est le moment où surtout il ne faut pas prendre de risques.
Donc, ne pas sortir de sa zone de confort ? Le lien avec la zone de confort, il est là ?
Exactement. Okay. Ne sors pas de ta zone de confort okay. à ce moment-là.
Okay.
Parce que, comment dire, tu as beaucoup à perdre.
Okay.
Si tu as des points d'avance, alors ces points d'avance, c'est ce que va convoiter ton adversaire. Et si tu prends des risques à ce moment-là, ton adversaire risque d'avoir un élan de colère et de se dire « ça suffit, trop c'est trop » et de se battre et de te reprendre ces points d'avance que tu avais.
Donc là, c'est sur la prise de risque. Alors, la zone de confort, je vois pas 100%, parce que du coup, si toi, tu, en tant qu'individu, tu te dis quoi ? Alors, tiens, je ne vais pas sortir de ma zone de confort parce que je risque d'énerver les gens autour de moi ou j'ai...
C'est un chouette challenge que tu me dis là. C'est en fait, c'est quand tu as beaucoup à perdre. Et beaucoup à perdre, ça peut être énerver les gens autour de toi. Ça peut être, je ne sais pas quoi moi, comment dire, tu peux avoir à perdre ton harmonie familiale ou tu peux avoir à perdre ta bonne relation avec ton supérieur hiérarchique. Typiquement, l'autre jour, j'étais avec un jeune homme qui est dans une situation professionnelle qui ne lui convient pas, mais il me dit « si je change, je mets en danger la bonne relation que j'ai avec mon chef. Est-ce que je suis prêt à mettre en danger la bonne relation que j'ai avec mon chef ? Est-ce que je suis prêt à payer de la bonne relation avec mon chef ?» La résolution de ma frustration.
C'est vraiment intéressant parce que je trouve que c'est un peu comme tu dis à contre-courant de ce qu'on peut entendre. J'imagine que plein de personnes doivent se dire bah, bien sûr qu'il faut qu'il assume, qu'il les soit authentique, qu'il soit voilà, etc. Mais là, dans l'approche systémique, c'est un équilibre quoi. C'est plus cette notion d'équilibre qui va faire qu'à la fin, on arrive à un objectif. Et cette notion de collectif versus individuel, c'est vraiment intéressant, ouais.
Alors oui, il y a ça, et puis si tu veux, c'est peut-être qu'un jour, ce jeune homme prendra le risque de, comment dire, de dégrader la relation avec son chef. Mais si tu veux, il aura pesé,
Je comprends.
Oui, il aura pesé ouais. ce risque, il aura pesé à la fois les bénéfices et les conséquences du changement de relation dans cette relation de travail.
Alors, je trouve ça intéressant aussi par rapport au temps long que tu mentionnais dans le podcast 39, où on est peut-être nous, dans notre société, toujours sur ce temps court et du coup de action-réaction. Et là, on comprend bien aussi l'approche systémique avec cet exemple, où on se dit peut-être ce jeune homme, aujourd'hui, bah, il peut rester dans cette zone de confort ou voilà, pas changer forcément sa manière d'être. Mais sur le temps long, ça ne veut pas dire qu'il ne changera pas. Et je trouve ça vraiment intéressant aussi d'avoir ce feedback de ta part.
Et tu vois, ce qui est très intéressant, c'est que dans la situation en particulier, c'est l'épouse de ce jeune homme le pousse à changer. Et elle pousse, parce que elle aimerait bien que son mari change un certain nombre de choses dans sa vie professionnelle. Mais les conséquences que son mari encourt au changement qu'elle le pousse à faire, c'est un angle mort pour elle.
Ah, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux répéter le proverbe de Go sur lequel on vient de discuter, juste qu'on soit clair sur le proverbe ?
En gros, c'est quand tu es en avance, quand tu as beaucoup, quand tu as quelque chose à perdre, fais profil bas et ne prends pas de risques.
Ok. J'imagine qu'il y a des auteurs qui doivent se dire « Waouh, c'est quoi ce truc ?» C'est un peu à contre-courant et c'est ça qui est super intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander un deuxième proverbe de Go et est-ce que tu peux nous parler de la gestion des priorités ?
Ah oui. En gros, si tu veux, ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est qu'au Go, il n'y a pas de hasard. Et tu ne peux jamais jouer deux coups de suite. À chaque fois que toi, tu vas jouer un coup, ton adversaire va jouer un coup qui va te contrarier et qui va contrarier tes plans. et qui va peut-être t'amener à devoir modifier ton plan initial, etc. Et donc, dans la gestion des priorités, ça veut dire que quand tu joues un coup, c'est une ressource qui est extrêmement rare et chère. Alors, si le coup que tu peux jouer peut poursuivre plusieurs objectifs, c'est pas mal. Parce que si tu te fais contraint sur un objectif, alors tu vas éventuellement pouvoir te rabattre sur l'autre. Donc ça, c'est une première loi de gestion des priorités que je trouve très intéressante, parce que c'est vraiment une loi d'économie. J'avance un pied. Si l'autre répond comme ça, alors je peux faire ci. Mais s'il répond autrement, alors je peux faire ça.
Oui, d'accord.
Tu vois, c'est l'idée de se ménager des marges de manœuvre au cas où l'autre, justement, ne répondrait pas comme j'ai prévu qu'il réponde.
Génial, excellent, très intéressant. Est-ce que tu peux nous redonner le proverbe de Go qui fait le écho à ce que tu viens de dire ?
Alors, c'est courir après deux objectifs est plus sûr que de n'en poursuivre qu'un. Hein ? Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment un proverbe qui te dit garde-toi des marges de manœuvre. Et si un coup n'a qu'un seul objectif, ça sent le mauvais coup.
C'est marrant parce que c'est aussi à contre-courant de ce qu'on peut dire des fois en stratégie, en entrepreneuriat, où on dit si tu cours après deux lièvres, t'en attrapes aucun.
Alors ça, tu vois, sur le courir, pas courir après deux lièvres, etc. Là, pour le coup, je te rejoins dans le sens où, puisque t'as un seul coup à jouer, alors c'est important de pas avoir trop de casseroles sur le feu. Parce que, imagine que ton adversaire joue un coup qui réveille deux faiblesses en même temps. Une faiblesse sur une casserole A et puis une faiblesse sur une casserole B. Et que tu peux pas jouer, tu peux pas soigner ou résoudre la faiblesse de la casserole A en même temps que la faiblesse de la casserole B. Alors là, tu vas avoir un problème. Parce que tu as un seul coup à jouer. Donc tu vois, le fait de poursuivre plusieurs objectifs avec un même coup ne veut pas dire qu'il faut ouvrir des fronts, un nombre trop grand de fronts. Ça, c'est pas la même chose.
D'accord, c'est intéressant, oui. Okay. Écoute, est-ce qu'on se prend encore 5 minutes pour un dernier proverbe de Go, si tu veux bien. Est-ce que je peux te titiller ou te questionner sur l'ambition et ses limites ?
Ça aussi, tu vois, c'est un peu ma réaction joueuse de Go à Sky is the Limit, hein, qui est très, très populaire dans le monde du développement personnel, professionnel, etc. Et où finalement, il y a une survalorisation de l'ambition individuelle. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, dans l'épanouissement, dans l'ambition professionnelle ou autre, dans le go, comme je te disais tout à l'heure, tu as gagné quand tu as un point d'avance et tu n'as pas mieux gagné quand tu as 50 points d'avance. Et du reste, si tu gagnes plusieurs fois d'affilée contre le même adversaire, alors il y a des systèmes de handicap qui vont rééquilibrer les choses pour donner à chaque adversaire des chances comparables de pouvoir gagner la partie, des chances équilibrées de pouvoir gagner la partie. Parce que sinon, si c'est toujours, par exemple, toi qui gagnes contre moi, au bout d'un moment, je ne vais plus avoir intérêt à jouer avec toi.
Mmh. Et donc, d'accord. Si c'est tout... Ça, tu l'avais pas dit, tu nous avais pas dit ça, sur les handicaps.
Mais tu vois, c'est toujours toi qui gagnes, et toujours moi qui perds, au bout d'un moment, j'aurai plus intérêt à jouer avec toi. Alors, soit on rééquilibre les choses de manière à ce que tu puisses gagner une fois, moi une autre fois, etc. Soit j'arrête de jouer. Et donc ça veut dire que quelqu'un qui gagne toujours ou quelqu'un qui domine toujours une relation met la relation en péril. Mais c'est vrai dans des relations humaines, mais c'est tout à fait vrai dans nos relations avec les ressources de la planète.
Super intéressant, et du coup là on comprend bien le problème, on va dire, sur le sky is the limit. Et c'est marrant parce que, tu vois, je réfléchissais, je t'écoutais avec attention, et je me dis, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses que tu dis qui sont à contre-courant de manière de... de pensée ou de conseiller actuel. Et c'est ça qui est super intéressant. Et c'est pour ça que je voulais vraiment te réinviter parce que j'aime bien justement entendre des choses à contre-courant et m'ouvrir à de nouvelles choses. Et ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est qu'on se dit, mais en fait, elle s'appuie sur un jeu millénaire, quoi. C'est, aujourd'hui, on dirait que c'est à contre-courant, mais tes apprentissages, on parle bien du jeu de Go, qui est un jeu qui date de, je ne sais plus, millénaire. Et on se dit, bah ouais, il y a... Aujourd'hui, c'est à contre-courant, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se nourrisse à nouveau de... Enfin, moi, je pense qu'il faudrait qu'on se nourrisse à nouveau, justement, de toute cette approche systémique. Donc, merci pour tout ce que tu nous partages et de transmettre via ce jeu. Je trouve ça vraiment
merci,
intéressant.
Merci, Sophie.
Merci beaucoup, Cécile. Devoir conclure, mais c'était, comme la dernière fois, vraiment intéressant. Et j'adore ce parallèle avec ce jeu millénaire. Je me répète parce que je trouve ça important. Justement, est-ce que tu, sur ce jeu de Go, par rapport à ta pratique, est-ce que tu nous disais que tu as des coachings en entreprise, en séminaire, etc. Est-ce que tu as des actualités sur ce sujet?
Oui. Et en particulier, suite au dernier épisode, j'ai eu pas mal de demandes d'en savoir plus, etc. Donc, j'ai préparé des ressources justement pour pouvoir les partager.
Super.
Donc je vais en publier plusieurs sur mon blog. Oui, c'est www.bridge-the-gap-coaching.com. Mais si vous tapez Bridge the Gap Coaching dans Google, normalement vous devez arriver directement chez moi. Et puis dans Génial. La série aussi des actus, il y a un bouquin qui est sorti il y a pas longtemps, co-écrit par un Français et un Chinois, qui justement parle, comment dire, du Go et en quoi est-ce que le Go est représentatif de la pensée chinoise. Et voilà, j'ai une interview à venir sur le blog très bientôt. J'ai fait aussi des études de cas de coaching individuel et collectif. Et donc, tout ça, c'est à découvrir sur le blog et j'espère que ça vous... Alors, justement, je communiquerai sur justement les nouveaux contenus du blog via la newsletter. Donc, j'invite tous les auditeurs à s'y inscrire.
Ah bah super. Bah écoute, on a hâte de voir tout ça parce que c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Donc, c'est cool que tu nous partages aussi ce que tu découvres et tes ressources. Donc, on va suivre ça. Je te remercie encore pour ce temps. C'était vraiment... vraiment intéressant, vraiment top comme la dernière fois. Donc, merci beaucoup, Cécile. Et puis, peut-être à une prochaine, hein, qui sait, sur le podcast.
Très, très grand plaisir, Sophie. Merci encore de m'avoir reçu.
À bientôt, Cécile.